Alors, le thème de cet enseignement est le Sacré-Cœur dans l'enseignement des papes. Je vais vous proposer d'abord de nous rappeler comment la fête du Sacré-Cœur, telle que Jésus l'a demandé, a été acceptée, reconnue aussi, et puis proclamée dans l'Église. Et puis ensuite, parcourir assez rapidement, bien sûr, ce que les papes ont dit sur le Sacré-Cœur et comment l'Église, en fait, a accepté comme étant quelque chose d'extrêmement important pour la doctrine, pour la foi, pour la vie des chrétiens. Eh bien, la spiritualité du Sacré-Cœur, telle qu'elle a été vécue déjà depuis toujours, comme on l'a vu jusqu'à maintenant dans les enseignements précédents. Le 16 décembre 1702, le pape Clément XI, dans une bulle spéciale en faveur des monastères de la Visitation, autorise la dévotion aux religieuses de ces monastères. C'est assez récent, c'est 12 ans seulement après la mort de Marguerite Marie déjà. Peu à peu, la dévotion du Sacré-Cœur va donc, par la suite, sortir de l'enceinte des couvents, on peut dire. D'abord, à travers l'intervention de plusieurs évêques en France, à Lyon, Besançon, Coutances, par exemple, qui vont établir cette fête de Sacré-Cœur dans toutes les églises de leur diocèse. Et puis, on sait bien qu'en 1720, encouragé en cette voie par Anne-Madeleine Remusat, une religieuse de la Visitation de Marseille, Monseigneur de Belzance consacre la ville dévastée par la peste au Sacré-Cœur de Jésus. Il y aura aussi un grand jubilé bientôt à Marseille. Par la suite, d'autres évêchés, Aix, Arles, Avignon, Toulon, Carpentras, vont accepter et puis vont donner des prescriptions pour l'institution de la fête. Ce qui est étonnant et paradoxal, en fait, c'est qu'il faut attendre presque 100 ans pour que le message de Palais-Monial soit reconnu d'une manière encore plus officielle dans l'Église, en 1765. Et on verra pourquoi. Mais pendant ce temps, entre 1690 et 1740, près de 700 confréries du Sacré-Cœur ont été fondées. Il s'agit surtout des initiatives des membres de la Compagnie de Jésus qui vont recevoir les approbations, souvent des autorisations pontificales par ce qu'on appelle des brefs apostoliques et aussi des encouragements spirituels de la part de Rome. Mais c'était seulement, donc, comme je disais, en 1765, suite à la présentation par les évêques polonais de mémoire au fondement théologique et à l'argumentation solide, que le pape Clément XIII va accorder le 6 février, donc 6 février 1765, il accorde par un décret de la Congrégation des Rites aux évêques de Pologne et à l'archiconfrérie romaine la permission de célébrer avec messe et office propre la fête du Sacré-Cœur. C'était un moment important dans l'Église. Alors, je vais peut-être vous lire quelques passages que le postulateur de la cause de la fête du Sacré-Cœur a défini avec clarté, justement, pour dire qu'est-ce qu'il faut considérer quand nous tournons vers le cœur de Jésus. Ce sont quelques éléments, je dirais, de doctrine aussi, qui sont en fait les fondements bibliques aussi, spirituels, théologiques aussi, de ce culte. Et à partir de ce dossier, on peut dire, eh bien, tout le reste de l'enseignement de l'Église va se développer de plus en plus, et les papes vont reprendre en mettant l'accent sur l'un ou l'autre de ces points. Je cite. Il existe une confusion chez plus d'un. Il regarde l'objet propre de la fête, le cœur de Jésus, d'une façon toute matérielle, comme serait une relique d'un corps saint, religieusement conservé dans une châsse. C'est une grosse erreur. En fait, il s'agissait de se défendre, on peut dire, contre tous ceux qui accusaient l'Église, en fait, hein, ou ceux qui propageaient le culte du Sacré-Cœur comme étant une hérésie. Particulièrement les jansénistes qui traitaient les chrétiens qui se tournaient vers le cœur de Jésus de cordicoles. Et puis il y a eu même des synodes, des jansénistes qui ont déclaré que s'il s'agit vraiment d'une voie complètement erronée, etc. Et voilà, dans le dossier que la Pologne a présenté à Rome, il s'agit de cela. Il s'agit d'abord de ne pas regarder le cœur de Jésus comme un organe, quoi, comme ils disent ici, une relique, quoi. Ce n'est pas du tout ainsi qu'il faut entendre la fête du Sacré-Cœur. Il faut voir le cœur de Jésus, deux points. Primo, comme ne faisant qu'un seul objet avec l'âme de Jésus et sa divine personne. Secondo, comme le symbole ou le siège naturel de toutes les vertus et de tous les sentiments du Christ Seigneur, surtout de l'immense amour dont il chérit son Père et les hommes. Tertio, en outre, comme le centre de toutes les douleurs du très aimant Rédempteur, douleurs souffertes pendant toute sa vie, surtout pendant sa passion pour le salut des hommes. Quarto, il ne faut pas oublier la blessure reçue sur la croix. Blessure faite non pas tant par la lance du soldat que par l'amour de Jésus qui dirigeait la lance vers le cœur. Tout cela appartient au cœur de Jésus. Uni à lui, tout cela constitue avec lui l'objet propre de cette fête. Il en résulte, la remarque est d'importance, que cet objet ainsi conçu embrasse vraiment et réellement tout l'intérieur de Jésus. Tout l'intérieur de Jésus. À quel point tout cela est divin et renferme de profonds mystères, chacun le voit d'abord. Inutile d'insister. Alors, le texte continue pour expliquer un peu cela. Mais à un moment donné, il est dit, en effet, il n'y en a aucun qui contienne et représente des mystères plus sublimes que le cœur. Aucun dont la vue et la considération puissent produire dans le cœur des fidèles des sentiments plus saints. Aucun qui peigne mieux aux yeux du corps et en même temps à ceux de l'âme l'amour immense de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun qui soit plus propre à renouveler dans l'esprit des fidèles le souvenir de tous les bienfaits de notre Sauveur tout aimant, qui exprime d'une manière plus sensible les tourments intérieurs qu'il a endurés pour nous. Toutes ces merveilles et bien d'autres encore, on les voit non seulement contenues et représentées dans ce Sacré-Cœur, tel que d'habitude on le représente et l'adore, mais comme écrite et gravée et mise sous les yeux. Alors, il s'agit vraiment d'encourager les fidèles à se tourner vers ce cœur de Jésus comme vraiment le centre de tout. Et puis on va entendre comment d'autres papes seront encore plus clairs là-dessus. Voilà quelques mots concernant cette première reconnaissance officielle, je dirais, en dehors de la France, on peut dire, hein, de ce culte du Sacré-Cœur par le pape Clément XIII, à la demande d'abord des évêques polonais. Donc je disais aussi que dans les mois qui ont suivi, il va autoriser aussi l'archiconférie romaine, hein, et les évêques, en même temps que les évêques polonais, à célébrer cette fête. Et il va ratifier la messe et l'office composé à cet égard le 11 mai 1665. Par la suite, la fête sera approuvée aussi dans tous les pays, diocèses ou monastères qui en font la demande. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, chaque évêque qui sentait que pour son diocèse, c'est vraiment quelque chose d'important, il faisait une demande et il recevait l'approbation de cette fête du Sacré-Cœur. Évidemment, de cette façon, le culte du Sacré-Cœur s'est répandu très rapidement dans le monde entier. Alors, Je vais avancer un peu concernant justement la, cette expansion, cette reconnaissance universelle. Ce sera donc en 1856 que le pape Pie IX, qui est bien heureux, va étendre la fête du Sacré-Cœur à l'ensemble de l'Église catholique. Alors, il y a un contexte un peu, bon, peut-être un peu connu, mais je me permets de le relater ici parce que ça nous donne un peu une idée comment, voilà, l'évolution même des dogmes, des doctrines et des documents de l'Église peuvent avoir lieu. En juin 1856, a eu lieu le baptême du fils de Napoléon III. Et tout l'épiscopat français s'est réuni à Paris. Pourquoi ? C'était l'archevêque d'Autun, justement, Monseigneur de Margerie, qui les a fait venir à Paris. Et tous ensemble, ils ont prié, ils ont demandé à l'archevêque de Lyon d'intervenir auprès du cardinal Patrizi, venu de Rome, exprès pour cela, qui était légat, hein, voilà, qui est venu à la cérémonie du baptême respectif, en lui disant de s'adresser au pape Pie IX pour obtenir l'extension de la fête du Sacré-Cœur à toute l'Église. Alors, de retour à Rome, celui-ci informe immédiatement le souverain pontife, et quelques semaines après, le 25 août, hein, par décret, Pie IX va inscrire au calendrier de l'Église catholique la fête de l'office du Sacré-Cœur. Le troisième vendredi après la Pentecôte. Et d'autres documents disent donc le vendredi qui suit l'octave de la fête de Dieu. Alors je vais donc citer le cardinal Patrizi, qui est le préfet de la Sacrée Congrégation de Rite à ce moment-là. Depuis que le pape Clément XIII a permis à quelques églises de célébrer avec office et messe en l'honneur du très saint cœur de Jésus, les peuples fidèles se sont sentis en tout lieu excités avec tant d'ardeur à honorer la charité immense de ce cœur divin qu'il n'y a presque pas de diocèse qui ne se réjouisse d'avoir obtenu du siège apostolique le privilège de célébrer cette fête. C'est pourquoi, désirant que cette fête si douce au cœur des fidèles et suivie avec une piété si unanime dans l'univers catholique presque tout entier, fut désormais célébré par l'Église universelle lorsque, dernièrement, le cardinal Soussigné, donc lui-même, hein, remplissait en France les fonctions de légat à Latéré. Donc il raconte un peu l'histoire de Paris, voilà, il explique comment ça s'est fait. Alors, il est de retour à Rome, il explique cela. Et il finit en disant « Le Saint-Père a ordonné que l'office du très saint cœur de Jésus pour le royaume de Pologne et le clergé de Rome, approuvé par la Sacrée Congrégation déjà, eh bien, sera désormais célébré chaque année dans toute l'Église sous le rite double majeur, donc c'est un degré de fête quand même très important, le vendredi après l'octave de la fête de Dieu, avec voilà, toutes les droits respectifs. Je ne vais pas vous donner lecture à tout ce paragraphe. C'est évidemment une joie énorme pour l'Église entière. Quelques années plus tard, le 18 septembre, aura lieu la béatification de Marguerite Marie. En 1864, oui, j'ai pas dit ça, oui, en effet. Et vous avez en fait cette date quand vous regardez tout en haut de la chasse de Sainte Marguerite Marie. Hein. C'était un moment de grande joie ici à Paray-Monial. À partir de ce moment-là, l'évêque du lieu a déclaré une année jubilaire, hein, qui va finir en 1865, moment où la chapelle des apparitions a été aménagée, agrandie telle qu'on la voit un peu aujourd'hui et qui a été aussi consacrée, dédiée d'ailleurs. On a fêté d'ailleurs la dédicace il n'y a pas très longtemps. un peu plus tard. Le 31 juillet 1872, ce même pape Pie IX, en réponse à la supplique qui lui a adressée le comité du vœu national en France, il va approuver justement le projet de la construction de la basilique de Montmartre. Et un an après, il a redonné son accord et même il a participé personnellement avec une offrande de 20 000 francs de l'époque pour la construction de cet édifice. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ou non ce vœu national qui est le texte. Il se trouve dans la basilique même. Je ne vais pas le lire maintenant, mais c'est vraiment un acte d'une grande humilité. Quand on le lit, c'est très touchant de voir comment la France, en fait, exprime son attachement au Saint-Siège, en fait, au souverain pontife, en le demandant aussi sa délivrance, dans un contexte très compliqué. Et exprime ce désir et puis la reconnaissance aussi pour tous les secours extraordinaires que le ciel peut accorder au pays. Je ne vais pas insister trop parce que il y a encore d'autres papes qui ont pris la parole, qui sont exprimés concernant le culte du Sacré-Cœur. Mais voilà, c'est déjà bien garder en mémoire cela. Il y a aussi une chose que je me permets de mentionner ici, qui nous concerne, à part les monnaies, ici c'est peut-être important. En 1875, donc toujours sous le pontificat de Pie IX, c'était l'année du bicentenaire de la grande apparition à Marguerite-Marie. L'évêque d'Autun, Mgr Perrault, le 6 janvier, donc, demande à Pie IX que l'église romane bénédictine de Paray-le-Monial, qui était déjà construite par saint Hugues et les moines de Cluny en 1090, devienne un sanctuaire de pèlerinage, bien qu'il n'existait pas de lien direct avec les apparitions qui se sont déroulées dans la chapelle des apparitions du monastère de la Visitation toute proche. Donc, une demande pour que ce soit un sanctuaire, en fait. À cette occasion, l'église est élevée au rang de basilique mineure et placée sous le vocable du cœur de Jésus, alors qu'avant elle était nommée Notre-Dame. Mgr Perrault va procéder à sa consécration le 2 juin 1876. Et à peu près en même temps, il y avait un mouvement dans l'église qu'on peut appeler populaire, mais enfin, vous savez que la foi du peuple, la voix du peuple, ça compte. Le sens de la foi, notamment. Le père Jules Chevalier, le 11 janvier, donc la même année, 1875, est reçu en audience par le pape Pie IX, toujours le même, et lui présente les 30 volumes qui contiennent les 3 millions de signatures et les 160 lettres de cardinaux, évêques et archevêques du monde entier qui demandaient la consécration solennelle de l'Église universelle au Sacré-Cœur de Jésus. Et cette demande a été approuvée quelques mois après, le 22 avril. Pie IX revêt l'acte de son approbation et charge le père Ramière de le communiquer à tous les évêques du monde avec invitation de le porter à la connaissance des fidèles. Donc, il propose même une prière de consécration de l'Église universelle, c'est-à-dire de tous les fidèles. Et il leur demande de réciter cet acte de consécration le 16 juin de cette même année, 1875. On pensait que c'était la date, jour pour jour, où deux siècles avant avait eu lieu la principale apparition du Christ à Marguerite-Marie, qu'on appelle la grande apparition, avec justement la demande de la fête. Donc, une prière de consécration qui est très très belle et un peu longue, je ne vais pas vous la lire maintenant. Le pape Pie IX a déjà consacré pour la première fois l'Église, l'Église universelle. Mais il faut attendre maintenant le pontificat de Léon XIII pour que cette consécration s'étende en fait à tout le genre humain, comme il allait le dire. Une religieuse, Mère Marie du Divin Cœur, qui était supérieure de la congrégation du Bon Pasteur de Porto, une congrégation fondée par Jean Eudes, le premier théologien du Sacré-Cœur, a reçu du Seigneur, voilà, d'une manière mystique, mystérieuse, la mission d'obtenir du pape, donc Léon XIII, qui avait commencé son pontificat juste à cette année-là, 1878. Donc, il reçoit du Seigneur la mission d'obtenir du pape la consécration du monde entier à son divin cœur pour placer les nations sous la protection de Jésus-Christ. Donc, elle va écrire une première fois le 10 juin à Léon XIII en ce sens. Et le pape n'a pas répondu. Mais quelques mois après, donc en 1899, le 6 janvier, comme elle n'a pas eu de réponse, les religieuses, elles sont tenaces parfois, elle réécrit de nouveau à Léon XIII. Et il lui écrit sur l'ordre de notre Seigneur, avec le consentement de son confesseur. Alors le pape est touché par ce courrier qui lui parvient le 15 janvier. Il fait examiner la question par le cardinal Camille Mazzella, un théologien jésuite, préfet de la Sacrée Congrégation des Rites, qui rend bientôt un avis favorable. Et alors, le pape Léon XIII, donc, il va écrire une toute petite lettre encyclique qu'il va nommer Annum Sacrum, déjà en préparation du jubilé de l'an 1900, dans laquelle il déclare qu'il allait accomplir cet acte de consécration de l'humanité au Sacré-Cœur de Jésus, et comme il allait le dire plus tard, il voulait accomplir ainsi, il a accompli à ce moment-là, le plus grand acte de son pontificat, qui était quand même assez long déjà, 1878-18 jusqu'en 1903. Alors, dans ce discours, le pape va exhorter les fidèles et tous ceux qui se préoccupent de leur salut et de celui de la société civile à contempler le cœur très sacré de Jésus. Je cite, « Nous devons placer en lui toutes nos espérances. C'est à lui que nous devons demander le salut des hommes et c'est de lui qu'il faut l'espérer. » Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que le pape Léon XIII, en fait, n'a pas voulu simplement consacrer les fidèles, justement les inviter, tous ceux qui sont membres de l'Église, à se confier à lui, à intercéder pour l'humanité. Il disait, oui, bien sûr, il faut le faire. Et nous devons le faire en tant que créatures, d'une part, et donc nous appartenons de fait à Dieu. Mais nous devons le faire doublement parce que nous sommes sauvés par lui. Donc c'est normal qu'on lui rende une réponse, de faire justice en fait, de dire au Seigneur, tu m'as sauvé, je t'appartiens. Et il dit dans ses écrits, le Seigneur, dans sa bonté et son amour infini, il n'oppose le moindre refus à ce que nous lui donnions et consacrions ce qui est son bien, comme si nous en étions le maître. Il nous a tout donné, on a le pouvoir aussi de lui rendre. Non seulement il ne le refuse pas, mais il le désire et le demande. Mon fils, donne-moi ton cœur. Il est donc vraiment en notre pouvoir de lui faire don de notre volonté et de notre affection, dit Léon XIII. Car en nous consacrant à lui, non seulement nous reconnaissons et acceptons son autorité ouvertement et avec joie, mais encore affirmons que si ce que nous lui offrons était à nous, nous lui en ferions présent de tout notre cœur. Et il précise, puisque le Sacré-Cœur est un symbole et une image de l'amour infini de Jésus-Christ, amour qui nous pousse à l'aimer en retour, il est donc bien naturel de se consacrer à son cœur très auguste. Agir ainsi, c'est faire don de soi, c'est se lier à Jésus-Christ, car tout honneur, tout hommage et piété envers Jésus-Christ s'adresse en réalité au Christ lui-même. Donc, ça c'est une première invitation. Et puis, dans la consécration solennelle que nous connaissons, hein, que nous avons peut-être l'habitude de la faire, eh bien, il s'agit voilà, de tous ceux qui sont déjà baptisés. Hein. Mais il rajoute aussi, dans son encyclique, autant qu'il est en nous, il s'agit de consacrer aussi les non-baptisés au Sacré-Cœur de Jésus. C'est-à-dire le recommander au Sacré-Cœur. Et ce point était un peu discuté par certains, qui pensaient que l'Église, en fait, était en train de vouloir embrigader tout le monde, et donc ne pas respecter la liberté de ceux qui ne sont pas croyants, ou alors qui sont pas baptisés. Alors, de quel droit le pape se permet de consacrer le genre humain quoi, au Sacré-Cœur? Mais il explique, hein, sa démarche. En fait, il voulait remettre au Christ voilà, tous les êtres humains, pour autant qu'ils étaient eux-mêmes disposés à ratifier cette remise, bien sûr. Et il confirmait le caractère particulier de cette consécration des non-baptisés sous forme d'intercession en leur faveur. En effet, le Christ est mort sur la croix à la place au nom et en faveur de tous les hommes, hein, y compris les non-baptisés, hein, évidemment. Même pour ceux qui ont vécu avant lui, d'ailleurs. À travers son vicaire, à travers le pape, hein, c'est le Christ qui se consacre le genre humain, tout en inspirant par son esprit à chacun des membres la pensée et le désir de ratifier cette consécration. Par cette consécration, le Christ prolonge et achève sa propre consécration au Père qu'il a consacré et envoyé dans le monde pour consacrer les hommes à son amour. Cette consécration répare toutes les profanations et tous les refus de consécration. Il s'agit de devenir une seule victime avec le Christ pour la gloire du Père dans l'Esprit. Et dans une vision aussi de saint Paul, hein, dans la deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 5, cette consécration voulait orienter les non-baptisés, en fait, vers le baptême, déjà. Donc, du coup, comme disait le père Marjorie, chacun des chrétiens peut offrir au Christ quelqu'un qui n'est pas baptisé. Donc, y compris ceux qui ont vécu avant nous. Consacrer le genre humain tout entier au cœur de Jésus, c'est donc s'associer à sa prière et à son sacrifice sur la croix en faveur des hommes de tous les temps et de tous les lieux. C'est voilà, une participation à cette prière du Christ, hein, qui veut que bah oui, tous les hommes soient sauvés, en fait. Donc ce n'est pas du tout ne pas respecter la liberté de qui que ce soit, vous voyez. Alors, c'est une prière qui a eu un impact extrêmement important, comme je viens de le dire, pour le pape lui-même d'abord, et aussi pour l'Église entière. Je ne vais pas vous donner d'autres données, d'autres dates, d'autres paroles du pape Léon XIII. Je vais avancer. Le pape Benoît XV, qui a été pape entre 1914 et 1922. Son pontificat a été marqué donc par la Première Guerre mondiale. On se rend bien compte de cela. Une des premières choses que nous pouvons retenir de lui, c'est qu'il a encouragé le père Matteo, celui qui a proposé l'intronisation du Sacré-Cœur, hein, dans les familles. Il lui a écrit même plusieurs lettres Il y en a une qui est très importante, qui date du 27 avril. Concernant l'intronisation, il s'agit d'une démarche que le Père Matteo a voulu la vivre, hein, dans son ministère avec ses confrères, les religieux de Picpus, comme on les appelle, hein, suite à une expérience très profonde dans la chapelle des apparitions, où il est venu prier, il était malade, il a été guéri. Le 23 août 1907, il avait 32 ans, un missionnaire péruvien, et il a reçu cette intuition, hein, d'aller proposer au foyer d'accueillir une image du Sacré-Cœur, en se souvenant d'une promesse que Jésus avait donnée à Marguerite Marie. « Je bénirai les maisons où l'image de mon cœur sera exposée et honorée. » Alors il s'est dit, ben, « Je vais faire ça. » Comme Jésus veut conquérir le monde comme étant un roi d'amour, eh ben, il veut le faire foyer par foyer. Donc du coup, je vais faire ça. Mais voilà, il est allé voir le Saint-Père, et qui lui avait dit déjà, hein, je vous encourage de le faire. Alors voilà que le pape Benoît XV lui écrit ceci. « Rien, en effet, n'a plus d'opportunité dans les temps présents que votre entreprise. » Écoutez cela, on dirait que c'est écrit hier, hein, enfin, ou aujourd'hui. Après avoir, je dirais, décrit un peu la situation de son époque, 1915. Hein. Voilà, le pape encourage Père Matthieu. Il dit ceci. « Pervertir dans la vie privée comme dans la vie publique le tempérament moral engendré et affiné par l'Église. Et après en avoir effacé presque tout vestige de sagesse et d'honnêteté chrétienne, ramener la société humaine aux misérables conceptions du paganisme, voilà ce que trop d'hommes, hélas, rêvent aujourd'hui et s'efforcent de réaliser, et plût à Dieu que ce fût sans effet. Vous faites donc bien, cher fils, en prenant en main la cause de la société humaine, d'exciter avant tout et de propager l'esprit chrétien dans les foyers domestiques, en établissant au sein de nos familles la charité de Jésus-Christ, pour qu'elle en soit comme la reine. La charité, la reine. En agissant ainsi, vous obéissez à Jésus-Christ lui-même, qui a promis de répandre ses bienfaits sur les maisons où l'image de son cœur serait exposée et honorée. Le pape connaissait vraisemblablement bien le message du Sacré-Cœur ici à Palais-Monial. Accorder à notre très aimable Rédempteur le culte et l'honneur en question et donc faire œuvre sainte et salutaire. Mais tout n'est pas là. Et ici, là, le pape commence à dire, il ne s'agit pas d'une dévotion de piété parmi d'autres, quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il explique pourquoi et il donne même un conseil, je dirais, pastoral très concret, quoi. Il importe aussi grandement de connaître le Christ. Connaître le Christ. De connaître sa doctrine, sa vie, sa passion, sa gloire. Le suivre n'est pas se laisser guider par un sentiment superficiel de religiosité qui émeut facilement les cœurs tendres et mous et tire des larmes faciles, mais laisse les vices intacts. Le suivre, c'est l'entourer d'une foi vivace et constante qui influe tout à la fois sur l'esprit et le cœur, qui dirige et règle les mœurs. Continuez donc, cher fils, vos efforts et votre apostolat afin de susciter à travers les foyers catholiques les flammes d'amour à l'égard du cœur sacré de Jésus. Mais efforcez-vous et faites auparavant, c'est notre volonté, que cet amour, dans toutes les maisons que vous visiterez, suivent jusqu'à son degré le plus grand et le plus élevé, la connaissance de Jésus-Christ et la connaissance apportée par lui-même de sa vérité et de sa loi. C'est comme si le pape voulait dire, ben, dès que les familles accueillent le Sacré-Cœur de Jésus, c'est-à-dire lui-même, hein, et bien que se laissent tous enseigner par lui et que la transmission de la foi se fasse, que les parents prennent soin à faire connaître aux enfants qui est ce Jésus. On peut parler d'une catéchèse, on peut parler d'une formation permanente, puis aussi même, évidemment, hein, que les parents eux-mêmes, ben, progressent dans l'approfondissement de la foi. Peut-être qu'aujourd'hui, on devrait utiliser le mot « vivre dans une rencontre permanente, consciente et libre avec Jésus vivant ». en fait, vous voyez. Certains l'appelleraient peut-être vivre une permanente effusion de l'esprit, c'est-à-dire avoir la conscience vive que Jésus est là, quoi, et que ce n'est pas seulement un petit geste comme ça de piété qui va protéger la famille, vous voyez. Alors, c'est un encouragement qui est valide, hein, encore pour de nos jours, hein. Alors, évidemment, le langage de Benoît XV dans cette époque-là, bon, il est tel qu'il est, il faut bien sûr le comprendre ainsi. Aujourd'hui, bien sûr qu'on utilisait peut-être d'autres mots, mais enfin, la réalité, c'est un peu cela. Le pape se plaint en fait en voyant que Dieu est de plus en plus exclu de la, des cœurs, que, voilà, que le baptême est oublié, qu'on veut vivre sans le Seigneur en fait, et ça lui fait mal. Voilà. Ce même pape, en 1818, le 6 janvier, à l'occasion d'une séance solennelle tenue pour l'approbation des miracles proposés pour la canonisation de Marguerite Marie, fait le vœu que les familles du monde entier se consacrent au Sacré-Cœur. Et quelques jours après, il écrit ceci: « Nous désirons que les familles chrétiennes se consacrent solennellement au divin cœur de Jésus. Et dès maintenant, nous bénissons toutes et chacune les familles qui par là concourront à la reconnaissance sociale de la souveraineté d'amour du Sacré-Cœur de Jésus dans les familles chrétiennes. » Enfin, le 7 octobre 1919, dans une lettre adressée au cardinal Hamet, Benoît XV met l'accent sur la charité universelle que la dévotion au Sacré-Cœur doit exciter dans les âmes. Je le cite: « Si nous voulons rendre au divin cœur de Jésus le culte qui lui sera agréable. » Cette charité est double, dit-il. Elle s'exerce envers Dieu et envers les hommes. Il s'agit, là, ici, vous voyez, de mettre l'accent, enfin, de plus en plus, sur la réalité profonde de ce culte du Sacré-Cœur. Une charité qui s'exerce envers les dieux et les hommes, alors même que ceux-ci seraient ou auraient été nos ennemis, dit le pape. En fait, c'est un encouragement, vous voyez, comme on le dit aujourd'hui, hein. C'est la vision d'un sanctuaire. Commencer et apprendre à aimer avec le cœur même de Jésus. Enfin, ce pape, le 13 mai 1920, il va canoniser Marguerite Marie à la coque, comme pour donner au monde entier, voilà, un modèle aussi, puis un exemple, bien sûr, mais aussi un encouragement à se tourner vraiment vers ce cœur du Seigneur, du cœur du Rédempteur. Le pape Pie XI a pontifié entre 1922 et 1939. Le 21 mai 1925, il canonise Thérèse de Lisieux. C'est une date importante. Thérèse qui ne voyait pas le Sacré-Cœur comme tout le monde, hein, parce que justement elle avait compris la profondeur de ce message. Ensuite, le même pape, le 31 mai, même année, 1925, canonise le même jour Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, et Jean Eudes, dont la bulle de canonisation reconnaissait le rôle primordial dans l'extension de la dévotion du divin cœur de Jésus. Je ne vais pas vous le lire maintenant, voilà, ce texte, mais... il voulait déjà justement encourager là aussi les pasteurs en fait, hein, à devenir vraiment des vrais apôtres du Sacré-Cœur. D'ailleurs, le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, donnait comme définition de sacerdoce, vous le savez, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que c'est le sacerdoce? L'amour du cœur de Jésus. Voilà, bon. Ce pape, il est connu surtout pour l'institution de la fête du Christ-Roi, 1925 toujours. Le 11 décembre, il va publier une encyclique qui s'appelle Quas Primas. Et dans cette encyclique, en fait, il précise quelque chose de très beau concernant le Sacré-Cœur. Je vais vous lire un petit passage. « En vertu de notre autorité apostolique, nous instituons la fête du Christ roi et nous ordonnons qu'elle soit célébrée le dernier dimanche d'octobre, depuis la date a évolué, a changé, dimanche qui précède immédiatement la fête de tous les saints. Nous ordonnons également, écoutez ceci, que soit renouvelée chaque année et ce même jour de la fête du Christ roi, la consécration du genre humain au Sacré-Cœur, dont notre prédécesseur de sainte mémoire, Pie X, avait déjà ordonné le renouvellement annuel. Il s'agit de la consécration de Léon XIII, voyez, qui a été déjà proposée par ces papes. Alors, c'est pour montrer en fait le lien très très étroit en fait entre la royauté du Christ, hein, qui est une expression justement de ce désir de son cœur en fait à conquérir tous les cœurs, tout simplement. Bien sûr que dans ce contexte très tendu à l'époque, hein, entre l'Église et la société, ben on essayait un peu de prendre des moyens pour, d'une part, se défendre, puis aussi en même temps pour propager, enfin évidemment, évangéliser, on dirait aujourd'hui. Alors, pour certains, cette compréhension de la royauté du Christ n'est pas si simple que ça. Et un peu plus tard, nous allons voir que le langage même a évolué, mais la réalité reste la même. Le Seigneur, en effet, veut conquérir tous les cœurs à son amour à lui. Le même pape, Pie XI, concernant aussi l'intronisation que le père Matteo propageait, il la tenait vraiment à cœur aussi, et il disait, voilà une belle œuvre qui réalise ma pensée, c'est la réalisation de mon encyclique. Donc l'encyclique, il institue la fête du Christ roi, et le père Matteo nous faisait autre chose que mettre en pratique cela dans tous les continents d'ailleurs. Le 8 mai 1928, le pape Pie XI attire l'attention sur le devoir de pratiquer la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et de lui faire une amende honorable. Alors il va écrire une encyclique spéciale qui s'appelle Miserentissimus Redemptor. Dans cette lettre, en fait, il insiste sur les devoirs de réparation envers le Sacré-Cœur. C'est-à-dire qu'il va expliquer que parmi toutes les pratiques du culte du Sacré-Cœur, se remarque et mérite d'être signalée la pieuse consécration par laquelle, rendant ainsi à l'éternel amour de Dieu tout ce que nous avons reçu de lui, nous nous vouons, nous et tout ce qui nous appartient, au divin cœur de Jésus. Si la consécration, en effet, a pour but premier et principal qu'à l'amour du Créateur réponde l'amour de la créature, un autre devoir s'ensuit de lui-même, qui est d'offrir à ce même amour incréé une compensation pour l'indifférence, les oublis, les offenses et les injures de tout genre qui peuvent lui être faites. Cette dette est ce qu'on appelle couramment le devoir de réparation. Ainsi donc, ce Sacré-Cœur, incessamment blessé par les péchés des ingrats, nous pouvons maintenant et même nous devons le consoler d'une manière mystérieuse, mais cependant réelle. D'autant que le Christ lui-même se plaint par la bouche du psalmiste, ainsi que la liturgie sacrée le rappelle, d'être abandonné de ses amis. Mon cœur a supporté l'opprobre et la misère. J'ai espéré que quelqu'un s'affligerait avec moi et il n'est point venu. Que quelqu'un me consolerait et je ne l'ai point trouvé. C'est aussi, bien sûr, vous voyez, une réponse publique maintenant de l'Église à l'appel du Seigneur, hein, adressé à Marguerite Marie, de venir consoler son cœur et puis aussi prier pour les pécheurs. Donc, vous voyez, dans cette encyclique, donc, c'est un peu, je dirais, le deuxième pape qui a pris le temps à approfondir la spiritualité du Sacré-Cœur concernant justement cette notion de réparation, cette compensation, comme il dit, hein, cette consolation. C'est une autre façon de voir l'amour du cœur de Jésus par rapport à Léon XIII qui voyait justement à travers la consécration comme un devoir de tout chrétien, hein, de se donner au Seigneur, hein, c'est une question de justice, un amour de justice, on peut le dire. Eh bien, Pie XI, il parle plutôt de l'amour de miséricorde. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas maintenant de rendre justice seulement, mais faire vraiment un acte gratuit comme une réponse libre de consolation, de miséricorde même, de notre part envers le cœur de Jésus, et pas seulement accueillir sa miséricorde à lui. C'est au niveau doctrinal un point important, cela. Alors, bien sûr que lui-même va élever la fête, enfin il va insister que la fête du Sacré-Cœur soit célébrée d'une manière encore plus solennelle, et décide la composition d'une nouvelle messe et d'un nouvel office liturgie du Sacré-Cœur, à laquelle lui-même va prendre une part active. Enfin, en 1932, ce même pape Pie XI va écrire une autre encyclique, Caritate Christi Compulsi, et il revient là sur les causes de la crise qui ébranlait alors le monde. Il voulait présenter l'union de la pénitence et de la prière au Christ comme remède salvifique. Pour ce faire, il recommande particulièrement la fête et l'octave du Sacré-Cœur, dont l'esprit propre est précisément un esprit d'amour réparateur. Oui, il y a aussi un détail, moi je ne l'ai pas dit tout à l'heure. En 1929, ce même pape Pie XI, le 16 juin 1929, il béatifie le père Claude Lacolombière. C'est une date importante aussi pour nous. Il l'a nommé un témoin et propagateur éminent du culte du Sacré-Cœur de Jésus. Est-ce que vous voulez bien fermer la porte, si vous voulez, s'il vous plaît? Voilà. Ce décret a été donné le 16 juin 1929, concernant donc la béatification de Claude Lacolombière. Je passe au pape Pie XII. Donc il a pontifié entre 1939 et 1958. Le 15 mai 1956, il insiste à son tour sur la nécessité de la pratique du culte du Sacré-Cœur, qui trouve son fondement dans l'Écriture sainte, dans toute la tradition de l'Église. Et alors, il va écrire une encyclique qu'on appelle Aurietis Aquas in Gaudio. Donc, vous puiserez avec joie aux sources vives du salut. Il explique que ce culte, qui est celui de l'amour divin et humain du Verbe incarné, n'est pas une forme commune de piété que chacun peut arbitrairement faire passer au second rang ou déprécier, mais une discipline qui conduit excellemment à la perfection chrétienne. Et d'ailleurs, il va dire que le culte du Sacré-Cœur, c'est la synthèse de toute la religion chrétienne. Là-dessus, vous allez avoir un enseignement détaillé ce soir, donc je ne vais pas m'attarder maintenant. Cette encyclique a été, je dirais, un summum, enfin un point très important au niveau scripturaire, théologique, spirituel aussi, pastoral, pour la propagation du culte du Sacré-Cœur, mais aussi pour nous faire comprendre, en fait, de plus en plus à l'Église, l'importance de ce trésor qui nous a été confié. Et le pape dit, par exemple, voilà ceci, ce culte alimentera et accroîtra le culte de la Sainte Croix et l'amour envers le très auguste sacrement de l'autel, l'Eucharistie, hein, qui est le centre de l'Église, le mystère de la foi. Donc, le père Jean-Rodolphe va vous enseigner là-dessus, paisiblement et joyeusement tout à l'heure. Le pape Jean XXIII sera le pasteur de l'Église catholique entre 1958 et 1963. Dans le journal de l'âme qu'il sera publié après sa mort en 1964. Il exprime son amour envers le Sacré-Cœur de Jésus en disant ceci. Je dois me regarder comme vivant uniquement pour le Sacré-Cœur de Jésus. La dévotion au Sacré-Cœur m'a accompagné tout au long de ma vie. Ah, je veux servir le Sacré-Cœur de Jésus aujourd'hui et à jamais. Je veux que ma dévotion au cœur, avec une C majuscule, cachée dans le sacrement de l'amour, soit le thermomètre de tout mon progrès spirituel. Je me fais une loi de n'avoir de trêve tant que je ne pourrai pas me dire anéanti dans le cœur de Jésus. Et alors il donne aussi comme témoignage, chaque fois qu'il avait un souci, un problème à résoudre, un discernement à faire, il quittait la personne qui l'accueillait là, il disait attendez-moi un instant, il allait devant le Saint-Sacrement et il priait le Sacré-Cœur, après il revenait, il donnait la réponse. Ben, il avait une habitude, oui, de prier le Sacré-Cœur. D'ailleurs, en tant que nonce apostolique, il est passé ici à Parlemonia, il y a une petite plaque qui rappelle son passage en 1947, je pense. C'est pour dire que le culte du Sacré-Cœur lui tenait vraiment à cœur. Sûrement inspiré par le Sacré-Cœur, ce pape a pu aussi inviter proclamer l'ouverture du Concile Vatican II, hein, où il voulait qu'un souffle nouveau entre dans l'Église. À propos du Vatican II maintenant, je ne vais pas m'attarder longtemps, il n'a pas beaucoup parlé du Sacré-Cœur, dans ces documents. Il y a eu un changement au niveau de la célébration, au niveau du calendrier liturgique, et c'est suite au Concile Vatican II que la célébration du Sacré-Cœur a été élevée au rang de solennité, donc parmi les plus grandes célébrations en importance. Aussi, il y a un passage qui est à retenir aussi, Gaudium et Spes, qui parle de Jésus en tant que fils de Dieu fait homme, ben voilà, il est venu travailler avec des mains d'homme, avec les mains d'homme, de parler avec un langage humain, aimer avec un cœur humain. Des expressions qui seront reprises un peu plus tard dans le catéchisme. Le pape Paul VI, ensuite, le 6 février 1965, à l'occasion du 200e anniversaire de l'approbation de la fête du Sacré-Cœur, il encourage les chrétiens à puiser dans la contemplation du Sacré-Cœur de Jésus une aspiration toujours plus résolue à conformer courageusement leur vie à l'Évangile, à corriger soigneusement leur conduite, à mettre en pratique les préceptes de la loi divine. Il exprime particulièrement son désir que, je cite, « le cœur de Jésus soit honoré par une plus intense participation au sacrement de l'autel, puisque son don le plus grand est précisément l'Eucharistie. » Le pape Jean-Paul II, qui a pontifié entre 1978 et 2005, au cours de son pontificat, il a parlé plusieurs fois du cœur de Jésus et il nous a invités à nous mettre à son école. Il y a des paroles très fortes qu'il a adressées à plusieurs reprises déjà en France, en venant par exemple à Montmartre en 1980, le 1er juin. Il disait ceci, « Nous venons ici à la rencontre du cœur transpercé pour nous, d'où jaillissent l'eau et le sang. C'est l'amour rédempteur qui est à l'origine du salut, de notre salut, qui est à l'origine de l'Église. » Bon, je ne vais pas pouvoir vous citer tout cela. Un peu plus tard, le 30 novembre, toujours en 1980, en écrivant l'encyclique « Dives in misericordia », donc « Dieu riche en miséricorde », il disait ceci, « L'Église semble professer et vénérer d'une manière particulière la miséricorde de Dieu » quand elle s'adresse au cœur du Christ. Nous approcher du Christ dans le mystère de son cœur nous permet de nous arrêter sur ce point, point central en certain sens, et en même temps le plus accessible au plan humain, de la révélation de l'amour miséricordieux du Père, révélation qui a constitué le contenu central de la mission du Fils de l'homme. Alors, j'aimerais m'attarder longuement sur son passage ici à Paray-le-Monial, le 5 octobre 1986, où il a célébré l'Eucharistie, il a visité la basilique, la chapelle des apparitions, et il a fini son pèlerinage à la chapelle Saint-Claude. Mais pour cela, si quelqu'un est intéressé, il y a tout un petit livret à l'école du Sacré-Cœur avec Jean-Paul II par le père Gérard Dufour, qui contient voilà, tous ces discours qu'il a tenus ici. Essentiellement, il a voulu d'une part inviter les familles chrétiennes, surtout pendant l'homélie qu'il a tenue pendant la messe, à se tourner vers ce cœur de Jésus, parce qu'il veut nous donner un cœur nouveau, hein, comme il disait déjà le prophète Ézéchiel. Il incitait les familles à renouveler leur propre consécration, leur offrande au cœur de Jésus. Je cite seulement une phrase. « Devant le cœur ouvert du Christ, nous cherchons à puiser l'amour vrai dont nos familles ont besoin. La cellule familiale est fondamentale pour édifier la civilisation de l'amour. » Donc voilà l'expression qu'il va utiliser, je dirais d'une certaine manière, à la place d'une ancienne expression, le règne social du Christ, en fait, que les autres papes voulaient proposer. Et deuxième aspect, ici à Paray-le-Monial, qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose de très beau aussi. Bien, il s'est adressé aux pères jésuites, au général hein, qui était là, en leur disant, je désire vivement que vous poursuiviez par une action persévérante la diffusion du véritable culte du cœur du Christ et que vous soyez prêts, vous jésuites, hein, ils disaient cela à eux, vous soyez prêts à apporter une aide efficace à mes frères dans l'épiscopat afin de promouvoir ce culte partout, en prenant soin de trouver les moyens les plus adaptés de le présenter et de le pratiquer, afin que l'homme d'aujourd'hui, avec sa mentalité et sa sensibilité propre, y découvre la vraie réponse à ses interrogations et à ses attentes. Et bien après, il va dire un mot qu'il va réécrire à l'évêque du lieu ici, quelques années après. « Auprès du cœur du Christ, le cœur de l'homme apprend à connaître le sens véritable et unique de sa vie et de son destin, à comprendre la valeur d'une vie authentiquement chrétienne, à apprendre qu'est-ce que c'est qu'aimer, en fait. » Il y aura sûrement beaucoup d'extraits de Jean-Paul II qui mériteraient d'être cités. Là, je vais simplement mentionner qu'en 1992, le 1er juin, enfin en fait le 31 mai, hein, il a canonisé Claude Lacolombière. Puis les documents sont sortis quelques jours après, en le proposant comme un modèle aussi pour ces temps nouveaux et en disant qu'aussi l'exemple de Saint-Claude nous invite à nous consacrer nous-mêmes hein, au cœur de Jésus. Il disait aussi en fin de son homélie pour sa canonisation qu'il faut qu'aujourd'hui le cœur du Christ devienne le cœur de l'Église et que c'est à partir de là que tout ce qu'on vit prenne un sens nouveau en fait. De son pontificat aussi, toujours en même année, 1992, a été approuvée la nouvelle édition du catéchisme de l'Église catholique, qui a un numéro qui est magnifique, qui vaut la peine de le noter, 478, concernant le cœur du Verbe incarné. Jésus nous a tous et chacun connus et aimés durant sa vie, son agonie et sa mort, et il s'est livré pour chacun de nous, le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi, dit saint Paul. Il nous a tous aimés d'un cœur humain. Pour cette raison, le cœur sacré de Jésus, transpercé par nos péchés et pour notre salut, est considéré comme le signe et le symbole éminent de cet amour que le divin Rédempteur porte sans cesse au Père éternel et à tous les hommes sans exception. En 1995, le pape Jean-Paul II a écrit le jeudi saint une lettre aux prêtres et dans laquelle il a proposé qu'à partir de ce moment-là, de cette année, le jour de la solennité du Sacré-Cœur soit la journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres, et que nous célébrons tous les ans, donc, la solennité du Sacré-Cœur, et puis tous les papes depuis, enfin, lui-même, Benoît XVI, et puis Pape François, invite l'Église à prier vraiment pour les pasteurs, afin que nous puissions avoir vraiment ce cœur du bon pasteur comme le cœur de Jésus. Enfin, pour finir, concernant Jean-Paul II, c'est important de se rappeler que en 2000, le 30 avril, c'est lui qui va canoniser sœur Faustine Kowalska, et il va instituer le deuxième dimanche de Pâques pour toute l'Église comme le dimanche de la miséricorde divine. Il disait, à travers le cœur du Christ crucifié, la miséricorde divine atteint les hommes. Cette miséricorde, le Christ la diffuse sur l'humanité à travers l'envoi de l'Esprit, qui dans la Trinité est la personne amour. Et la miséricorde n'est-elle pas le second nom de l'amour? C'est une façon, je dirais, de traduire ou d'adapter de nos temps. Voilà tout ce message, ce culte du Sacré-Cœur, sur lequel l'humanité peut se pencher en regardant ces effets de miséricorde en fait sur nous et sur l'humanité. Quand il a clôturé l'année sainte, le 6 janvier 2001, Jean-Paul II déclare dans son homélie, tandis qu'aujourd'hui se ferme la porte sainte, il s'agissait donc de la porte de la basilique Saint-Pierre, un symbole du Christ, le cœur du Christ demeure plus que jamais ouvert. Il continue à dire à l'humanité qui a besoin d'espérance et de sens, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, moi je vous procurerai le repos. » Après lui, Benoît XVI, déjà dans sa première encyclique, qui a été consacrée à l'amour divin, va évoquer le cœur transpercé du Christ sur la croix comme le lieu où peut être contemplé l'amour de Dieu pour les hommes. Et c'est à partir de cette contemplation que le chrétien trouve la route pour vivre et pour aimer. Cette encyclique s'appelait Deus Caritas Est. Les dons reçus du côté transpercé d'où coulèrent le sang et de l'eau font que notre existence est pour autrui également une source d'eau vive. L'expérience de l'amour qui se dégage du culte du côté transpercé du Rédempteur nous préserve du repli sur nous-mêmes, nous rend plus disponibles à une vie au service d'autrui. Et aussi lui-même, en 2006, à l'occasion du 150e anniversaire de l'encyclique Aureatis Agvas, il va encore adresser une lettre au général des jésuites pour affirmer toute cette importance de la dévotion au cœur de Jésus. Je termine avec notre cher pape François, qui n'a pas écrit un document officiel concernant le Sacré-Cœur, mais on voit bien que dans toutes ses interventions, toutes ses lettres, ses homélies, il fait toujours référence à la miséricorde du cœur de Jésus. Je pourrais vous citer quelques passages de ses homélies. Mais c'est toujours la même idée. Il nous aide à contempler ce cœur qui est très sensible. Le cœur humain de Jésus est toujours très compatissant envers la faiblesse, envers tous ceux qui sont en périphérie, et que son désir, c'est justement d'aller fidèlement, sans cesse, sans se fatiguer, pour venir toucher les misères de ce monde. Je vais peut-être vous lire simplement un texte qu'il a adressé lors de son voyage en Équateur, le premier pays du monde qui a été consacré au Sacré-Cœur, en parlant justement des fruits de cette consécration. Il disait ceci, « J'ai demandé à Dieu plusieurs fois dans la prière, qu'est-ce que ce peuple a de différent ? Et ce matin, en priant, cela s'est imposé à moi, la consécration au Sacré-Cœur. Je pense que je dois vous le dire comme un message de Jésus. Toute cette richesse que vous avez, la richesse spirituelle de la piété, de la profondeur, viennent d'avoir eu le courage, en dépit de moments très difficiles, de consacrer la nation au cœur du Christ, ce cœur divin et humain qui nous aime tant. Et ensuite, quelques années après, la consécration au cœur de Marie. N'oubliez pas que cette consécration est un jalon dans l'histoire du peuple de l'Équateur. Et à propos de cette consécration, je sens que cette grâce que vous avez, cette piété, cette chose qui vous rend différent, vous vient de là. Ben, c'est comme pour dire, voilà, que chacun d'entre nous est invité à se consacrer à ce cœur de Jésus. Alors, cette année, à l'occasion de la fête du Sacré-Cœur, le 28 juin, le pape évoque dans l'audience générale ce culte en disant je vous invite tous à regarder ce cœur et à en imiter les sentiments les plus vrais. Priez pour tous les prêtres et pour mon ministère pétrinien afin que toute action pastorale soit empreinte de l'amour du Christ pour chaque homme. Offrons-nous au divin cœur, offrons toute notre vie, le temps des vacances qui vient de commencer ou qui vient de finir. Hein, bon. Je souhaite à tous un bon repos estival. Vous voyez, c'est très cordial. Hein? Alors moi, je ne vais pas vous souhaiter un repos estival, mais un repos près du cœur de Jésus, dans la cité de nous nous trouvons maintenant. Eh bien, demandons au Seigneur que l'Église puisse accueillir de plus en plus profondément ces enseignements des pasteurs qui nous ont été donnés. Prions aussi pour notre pape afin qu'il accomplisse sa mission jusqu'au bout avec joie. Merci.